Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et je suis vraiment très content de vous avoir mis la chanson Génération Désenchantée dans la tête. On va commencer. Je sais que vous m'en voudrez pendant longtemps et en tout cas pendant au moins 24 heures. On va commencer avec le sujet qui fait scandale et qui concerne aussi le problème des âges de la vie et on va en débattre dans un instant. Mais d'abord, la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.
Je leur ai bien expliqué, d'abord notre colère, ma colère, mon émotion et surtout qu'ils avaient peut-être des actionnaires à rassurer. Mais moi, c'était des gens que je dois rassurer, des résidents, des familles qui sont inquiètes et des professionnels qui ont beaucoup souffert de ces techniques.
Et en face de vous, vous aviez deux hommes, quoi, qui niaient tout ?
Tout. Et puis, qui ne se remettent pas en question en tout cas et qui ont l'air de dire qu'ils ont des explications pour tout.
Brigitte Bourguignon, donc ministre de l'Autonomie, c'était mercredi matin sur LCI et elle revenait évidemment sur Orpea, le scandale Orpea dans un livre enquête publié il y a maintenant quelques semaines. Le journaliste Victor Castanet accusait ce groupe spécialisé dans l'hébergement des personnes âgées de rationner les soins d'hygiène. Il s'en prenait également à la prise en charge médicale qui ne pensait qu'à la rentabilité de l'entreprise. Mardi, donc, la ministre annonçait l'ouverture de deux enquêtes administratives avant de recevoir les dirigeants du groupe. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Gilles ?
Il y a le scandale Orpea, le scandale de la réaction des dirigeants d'Orpea que vient d'évoquer Brigitte Bourguignon et qui, de fait, a été consternante. Le scandale, surtout, de la financiarisation débridée de ce groupe dont ont été mis au jour des pratiques à la fois de marge, y compris sur des produits remboursés par la Sécurité sociale, de non pas de rationalisation, mais de rationnement des dépenses. Donc, il y a ça. Le risque est que, une nouvelle fois, on ait une émotion épisodique, comme on en a eu en 2005 avec les morts de la canicule, comme on en a eu en 2020 avec les morts des EHPAD pendant la pandémie, et puis que tout ça s'efface, parce que ça fait maintenant des années que l'on est face, comme le déni climatique face à un déni démographique. On a une transition majeure dont on sait qu'elle est devant nous et qu'on ne veut pas regarder.
Natacha.
Oui, je prolonge ce que dit Gilles. Il serait dommage de voir là un débat immédiat où les coupables vont payer, mais momentanément, ce qui n'empêchera pas ces grands groupes, car Orpea n'est pas le seul, de reprendre leur politique de bénéfices absolument effarante, avec en effet des pratiques qui sont particulièrement choquantes et qui, pour certaines, s'apparentent à de la fraude. Simplement, la question derrière est celle du financement du grand âge. Il y a des pays où la prise en charge du grand âge et de la dépendance est uniquement publique.
Oui.
Où ça ne relève pas de la financiarisation. Et ça nécessite pour cela, en effet, d'affronter réellement la question du financement. Le financement doit-il être individuel ou collectif ? Le financement doit-il se faire par exemple, un élargissement de l'assiette, de la CSG, par une prise en charge plus grande, par la création enfin de toute cette cinquième branche de la sécurité sociale, avec une réflexion donc sur la façon dont on abonde cela. Je pense que, et à côté de ça, vous avez actuellement et depuis longtemps en fait des assurances qui réfléchissent à ce qu'elles peuvent faire, elles. Mais ça pose des problèmes majeurs. Par exemple, si on individualise ça, si en effet ce sont les assurances privées qui prennent en charge ça, on va se retrouver avec un bouleversement, par exemple, dans la transmission des biens, c'est-à-dire l'usage du viager pour financer cela. Du coup, vous avez de moins en moins de transmissions aux générations suivantes. Il faut anticiper tout ça, ça change beaucoup de choses. J'ajoute juste un point.
D'un mot, oui.
D'un mot, la question, c'est celle de l'emploi. On ne peut pas financer par la puissance publique le grand âge s'il n'y a pas suffisamment de cotisations, donc s'il n'y a pas d'emploi. On en revient toujours au même point. L'emploi, notamment l'emploi industriel, c'est ce qui permet de financer tout cela.
Gilles.
Effectivement, la question est celle du financement. Je crois que la mauvaise question, c'est celle dans laquelle on sait comme souvent dans ce pays, engouffré, qui est la nature publique ou privée de ces établissements et une nouvelle fois la question de la nationalisation. Je suis pas sûr que ce soit la bonne question. Pourquoi ? Aujourd'hui, les EHPAD, les établissements privés, représentent un peu plus de 20% de l'ensemble. Est-ce que dans les 50% d'EHPAD publics, c'est le bonheur d'un côté et le malheur de l'autre ? Personne ne peut penser ça. Est-ce que, mieux encore, on peut penser qu'il y aurait eu 130 000 lits supplémentaires construits dans les 20 dernières années s'il n'y avait pas eu ces financements privés ? Sans doute pas. Et jusqu'où va-t-on aller ? De la même manière, on dit 50% du financement de ces EHPAD privés sont des financements publics. 90% du financement des cliniques privées sont des financements publics. Est-ce qu'on va tout nationaliser ? Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça la bonne question. Quelles sont, pour moi, les bonnes questions ? Je disais tout à l'heure, parmi les choses les plus certaines, il y a la démographie. Quand on regarde la démographie, la première question, celle qui est pour nous, dans la décennie qui vient, ce n'est pas celle de la dépendance, c'est celle du vieillissement. Le nombre de personnes de plus de 85 ans ne va pas augmenter dans les 10 prochaines années. Ce qui va exploser, c'est le nombre de personnes de 75 à 85 ans. Et eux, leur problématique, c'est bien vieillir. La question de la prévention, c'est pas la question de la dépendance. C'est comment on fait pour adapter leur logement. C'est comment on fait pour adapter les transports. C'est comment on fait pour adapter la ville. Comment on fait pour éviter que 10 000 personnes meurent chaque année par des chutes. Donc c'est ça la question, la première question de court terme. Et puis il y a la question d'après, qui est celle de la dépendance, parce que ces personnes qui vont avoir de 75 à 85 ans dans la décennie qui vient, ils auront 85 ans dans la décennie suivante, et ça il faut anticiper. Et là il y a une question de financement. On sait, c'est tout à fait documenté de combien on a besoin. En gros, 10 milliards d'euros supplémentaires en 2030. 1 milliard de plus chaque année. C'est beaucoup. C'est pas considérable, c'est pas insurmontable pour un pays comme le nôtre. Et par contre, ça, il faut le programmer parce que ça veut dire qu'il faut recruter, qu'il faut former. J'ajoute encore un tout dernier mot, si c'est possible.
Oui, d'un mot.
Ali, juste un mot. Il y a une autre chose.
Parce que vous parlez peu du cynisme. Vous parlez des structures, du financement, de la capitalisation, de la financiarisation, de la prise en charge des personnes les plus âgées et en perte d'autonomie. Mais là, en l'occurrence, on est aussi face à une question morale, quasiment éthique, non ?
Bien, évidemment, on est face à une question éthique. On est d'autant plus face à une question éthique que ce sont, je l'ai dit au début, des choses qu'on ne veut, on met la vieillesse, la grande vieillesse, le grand âge, la mort, de plus en plus à distance dans nos sociétés, c'est des choses qu'on ne veut pas regarder. Mais je termine d'un mot par ça. Il faut aussi penser ce que sont ces établissements de demain. Parce que ceux qui vont aller dans ces EHPAD dans 10 ans, ce seront les 68ards, ce sera ceux qui écoutaient les Stones et pas ceux qui écoutaient Miss Tinguette. Oui. C'est pas les mêmes. Ça veut dire que ils ont besoin de davantage de liberté et d'autonomie que n'en ont aujourd'hui les personnes qui sont dans ces établissements. Ça veut dire que il faut les penser comme des, non pas comme des résidents, mais comme des habitants. Que les espaces individuels, ça ressemble plus à un appartement qu'à une chambre. Et donc ça, là aussi, c'est des choses qu'il va falloir anticiper. Il y a eu une note de Jérôme Gage et de Luc Broussy, leur think tank Matière Grise, qui dit comment on fait pour repenser ces bâtiments-là. Je crois que c'est ces réflexions-là qui doivent être au cœur de cette campagne présidentielle si on veut, pour une fois, parler du fond.
Mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Gilles. La seule nuance, mais c'est d'ailleurs celle qu'il a soulevée, c'est sur la question. Mais rapidement, c'est celle sur la question du public-privé, parce que je suis d'accord que c'est pas merveilleux dans le public et abominable dans le privé. En revanche, l'argent qui est accumulé par des groupes qui maintenant appartiennent au CAC 40 et qui constituent les plus grosses fortunes, cet argent-là pourrait être réintroduit dans le bien commun. Et c'est là où est le sujet. C'est-à-dire que, mais pour ça, il faut que l'État puisse financer cela. Et pour qu'il puisse financer, je le souligne, il faut le financer par le travail, donc par la production. Et c'est là qu'on va pouvoir réintroduire tout ça dans le système et créer des emplois qui ne soient pas des emplois précarisés, qui ne soient pas des emplois non financés, parce que les gens qui vont rester à domicile ont besoin d'aide à domicile. Et ils ont besoin que ces aides à domicile aient un statut. Ça va avec.
Et les âges de la vie sont une question éminemment politique et nous aurons donc tout à l'heure l'occasion de débattre de la jeunesse. Le duel continue sur Inter.
Le grand face-à-face. Le duel.
Le problème de la police, c'est une justice laxiste. Je pense que vous êtes aux premières loges d'un combat de civilisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire seulement face à des délinquants. Vous êtes aux premières loges d'un conflit de civilisation. Vous êtes donc agressé en permanence car vous représentez l'État. Vous représentez la France. Et derrière vous, c'est l'État et la France que l'on attaque.
Éric Zemmour qui s'exprimait devant les forces de l'ordre mercredi, c'était lors de son intervention pendant le grand oral de la sécurité organisé par le syndicat de police Alliance. Il s'est également prononcé sur la théorie du grand remplacement qu'il défend et il disait aux forces de l'ordre donc qu'elles étaient aux premières loges d'un conflit de civilisation qui s'est étendu sur notre sol. Vous vouliez y revenir l'un et l'autre. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet-là et dans cette manière en tout cas de s'en emparer, Natacha?
Enfin, les propos qui ont été tenus par Éric Zemmour à cette occasion sont assez hallucinants, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que qu'on fasse le constat qu'il y a une violence, notamment dans certains quartiers qui relèvent d'une violence territoriale, dans la mesure où on a des caïds qui se sont appropriés un territoire et qui mettent en place une forme de gestion clanique sur ces territoires, ça, on en fait. Je pense que beaucoup de gens en font le constat et qu'en effet, il y a de ce point de vue-là la vision des forces de l'ordre comme le clan opposé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Mais transformer ça, comme il le fait, en un conflit de civilisation, en expliquant, parce que c'est pas dans l'extrait, qu'il y a en gros ceux qui font le djihad à l'étranger et ceux qui font le djihad ici, et que c'est ça le problème de la sécurité dans les banlieues, c'est quand même, on franchit un autre pas. Mais bon, c'est une vision qui a été présentée lors de cette manifestation, dont il faut souligner que c'était donc un syndicat de police qui est le syndicat majoritaire chez les gardiens de la paix, mais qui ne représente pas la police et qui avait choisi donc de ne pas inviter Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et les candidats de gauche avaient choisi de ne pas y aller parce que, comme l'a dit Fabien Roussel dans un commentaire non officiel, c'est comme le crocodile qui rentre dans une maroquinerie. Bon, il a toutes les chances de terminer en sac à main. Donc quel intérêt ? Voilà.
En revanche, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, donc. Ils sont allés.
Oui, en effet, ils y sont allés et ils ont délivré chacun une vision. Au moins, ça clarifie certaines choses. Mais je pense qu'il y a là une surenchère de la part d'Éric Zemmour, une fois de plus, qui est en train de le positionner. D'ailleurs, il suffit de voir le commentaire de Marine Le Pen dans le Figaro hier pour comprendre ce qui est en train de se jouer quand elle explique que le zémourisme est un communautarisme et qu'il y a chez Éric Zemmour des catholiques intégrés, des païens
et
quelques nazis, c'est-à-dire en gros tous ceux
des nazis,
tous ceux qui étaient au Rassemblement National il y a quelques années, qui ont été nettoyés petit à petit. C'est ça qui est intéressant. Ce qui se joue, c'est que Marine Le Pen, évidemment, renvoie Éric Zemmour au Front National ancienne version, c'est-à-dire celui qui était diabolisé et qui n'avait pas vocation à gouverner, puisque le message qu'elle essaye d'envoyer, c'est qu'elle aurait vocation à gouverner. On est là dans un jeu de dupes, en fait.
Gilles Finkelstein.
Quand on regarde ce qui s'est passé, disons, depuis le début de l'année, depuis du mois de janvier, on est dans de la politique à l'ancienne. Des ralliements individuels, une succession de ralliements individuels venant soit des Républicains comme Pelletier, soit du Rassemblement National comme Gilbert Collard, peut-être demain Marion Maréchal Le Pen, soit d'autres comme d'autres endroits comme Philippe de Villiers, de la démonstration de force. Il y a aujourd'hui même un gros meeting à Lille, et puis une petite musique très classique sur Éric Zemmour serait sous-estimé dans les sondages. En fait, il y aurait une dynamique cachée, mais que les sondeurs mettraient sous le tapis.
C'est crédible. D'où elle vient, cette petite musique?
Elle vient, comme toujours, de ses supporters qui voient que après la percée réelle qu'on avait analysée, il y a eu une érosion, il n'y a pas eu un affaissement, qu'il y a aujourd'hui une remontée petite, mais qu'il n'y a pas de dynamique, et donc il faut essayer de créer ce mouvement avec cette petite musique. Deuxième chose, si cette fois-ci on se rapproche du moment et de ce que vous venez d'évoquer, moi ce qui me frappe, Natacha disait les propos sont hallucinants, moi je les trouve vraiment inquiétants parce qu'il y a une banalisation de la violence qui est un thème récurrent chez Éric Zemmour. C'était vrai du thème de la guerre civile. C'était vrai, on l'a vu, de la manière dont il jouait avec les armes. C'était vrai implicitement dans ce qu'il disait aux policiers, qui était une forme de on vous dédouane par avance de tout dérapage. Et ça a été vrai, ça n'a pas été évoqué, de cette proposition qu'il a faite il y a quelques jours de modifier les règles de droit sur la légitime défense en les transformant avec ce qu'il a appelé la violence excusable.
La défense excusable.
Dans laquelle il n'y a pas besoin de proportionnalité à la riposte. Donc tout ça est plus qu'hallucinant, je crois que c'est inquiétant, mais ça passe de manière... Maintenant, il y a une forme aussi de banalisation d'Éric Zemmour et on y prête moins attention. Je termine juste d'une phrase. Éric Zemmour va perdre. Je pense qu'il ne sera pas qualifié. Et s'il est qualifié, il sera battu. De loin, c'est lui maintenant qui est le méchant. C'est lui qui inquiète les Français, beaucoup plus que Marine Le Pen. Il y a eu une enquête de l'IFOP encore cette semaine. Donc, il va perdre, mais d'une certaine manière, il a déjà gagné. Il a modifié la frontière du dicible et de l'indicible. Et il a enclenché la reconfiguration des droites. On n'en a pas fini avec Éric Zemmour.
Natacha, encore un mot ?
En effet, sur cette reconfiguration des droites, c'est ça qui est en train de se jouer autour d'un paradoxe d'ailleurs. C'est-à-dire que Éric Zemmour prétend effacer le cordon sanitaire qui existait entre la droite classique, la droite de gouvernement et l'extrême droite. Et pour cela, il réactive ce qu'il y a de plus radical dans l'extrême droite, qui était la cause de ce cordon sanitaire. Il est là le paradoxe.
Oui, mais c'est pour assez autant, paradoxal.
Bien sûr, mais tout simplement parce que il est sur cette ligne qui est une ligne identitaire et il part du principe que une part des électeurs de droite vont le rejoindre, en tout cas. Ont en tête que même s'ils votent pour la droite de gouvernement, pour la droite, pour les Républicains, ils sont en train de basculer dans cette dimension identitaire. Et son but, c'est uniquement de casser le positionnement du Rassemblement National, qui est un positionnement, on va dire, pour le dire rapidement, populiste, c'est-à-dire bloc populaire contre bloc élitaire. Et finalement, en effet, ce qui se prépare, c'est la recomposition. Ceux qui rejoignent Éric Zemmour en quittant le Rassemblement National ne croient pas qu'Éric Zemmour va faire mieux que Marine Le Pen ou a une chance de gagner. Il prépare la suite, c'est-à-dire le moment où Marine Le Pen aura peut-être perdu, sans doute même perdu, sa troisième candidature, sa troisième présidentielle, et où finalement l'avenir, ce sera la recomposition avec... en toile de fond, l'arrivée peut-être de Marion Maréchal, mais en tout cas, une façon de repenser, de casser le Front National, c'est ça qui est en train de se jouer, de casser une part de LR. Sachant que l'avantage aussi d'Éric Zemmour, il est pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que, en fait, Éric Zemmour, en réactivant cette figure du méchant, permet aussi de remobiliser une part des gens de gauche, non pas pour le vote de gauche, mais pour un vote macroniste de barrage, alors même qu'on sait, en effet, comme le dit Gilles, que Éric Zemmour ne gagnera pas.
Gilles Acquiesce, mais alors s'il sait qu'il ne gagnera pas, ça veut dire qu'il joue le coup d'après les législatives ou à un horizon politique, en tout cas, au-delà de l'élection présidentielle de 2022, Gilles ?
Oui.
Oui, c'est au moins très clair.
Oui.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Il y a incontestablement une très grave crise politique avec le Mali. Ce régime a décidé, entre autres, de renvoyer notre ambassadeur. C'est pas simplement un problème franco-malien. C'est un problème du Mali, de la lutte contre le terrorisme international.
La question du Mali qui s'invitait à l'Assemblée et au Sénat cette semaine avec un débat qui sera organisé au Parlement pour évoquer l'engagement militaire de la France, des troupes françaises au Mali et plus généralement au Sahel. Il y a un contexte de crise diplomatique entre la France et le Mali. Vous venez d'entendre Jean Castex devant les sénateurs, c'était mercredi également. Pourquoi il y a cette situation qui se durcit alors qu'il y a encore quelques mois, Natacha, il paraissait simple, légitime, de réfléchir aux relations, à la présence française sur place.
Il y a une conjonction de facteurs. D'abord, il faut s'inquiéter de voir l'Afrique de l'Ouest renouer avec les putschs militaires et l'instabilité. Dans ce contexte-là...
Il y a le Burkina Faso il y a encore quelques jours.
Dans ce contexte-là, la France a en fait une position complexe. Pourquoi ? Parce que autant l'opération Serval en 2014 était plus que légitime. Elle avait un objectif précis. Elle fut une réussite militaire qui a permis de montrer que la France avait encore la capacité à projeter des troupes. Et il s'agissait d'empêcher tout simplement la chute de Bamako. Ce qui change la donne, c'est l'opération Barkhane. C'est-à-dire une opération qui n'a pas de but précis, qui prétend pacifier l'ensemble de la zone sahélienne sans suffisamment de soutien des puissances alliées européennes notamment.
C'est un territoire grand comme l'Europe, il faut le dire.
Bien sûr, sans intégrer suffisamment les pays du G5 Sahel pour permettre que tout cela soit pris en main par les pays d'Afrique, c'est tout ça qui se joue avec une position de la France qui est une position d'ancienne puissance coloniale. Et ça doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer ce jeu où on va répondre à une provocation par une autre provocation en expliquant que c'est quand même scandaleux de traiter la France comme ça, etc. Il faut prendre en compte la psychologie qui est celle de populations qui considèrent la France comme l'ancienne puissance coloniale qui a des responsabilités, d'autant plus que... Alors c'est vrai que c'est injuste, parce que la France, finalement, ne se comporte pas plus mal que les puissances qui sont en train de prendre sa place en Afrique. C'est-à-dire la Russie à travers la milice Wagner, mais aussi la Chine, mais aussi la Turquie, mais aussi les pays du Golfe. Simplement, il n'y a pas ce passif. Donc la France doit aujourd'hui...
Enfin, il faut dire aussi que les populations locales ne sont pas consultées.
Non, mais c'est bien le problème. Et il faut dire aussi que la France a trop souvent soutenu des régimes qui n'ont absolument pas pensé à leur jeunesse, qui n'ont pas fait les réformes nécessaires. Donc il y a un contexte qui explique tout cela. La France n'est pas coupable de tous les maux, mais elle doit aujourd'hui réfléchir à tout simplement, j'allais dire, un retrait en bon ordre pour éviter un Kaboul, c'est-à-dire pour éviter d'être dans la situation des Américains à Kaboul, et pour ensuite essayer de repartir sur des bonnes bases et de ne pas tout perdre face à d'autres puissances qui sont largement agressive en Afrique.
Gilles, avant de passer au débat.
Oui, il y a eu donc l'élément déclencheur le plus récent a été le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali. Il y a eu ce faux pas politique en réaction aussi bien de Marine Le Pen que de Valérie Pécresse, disant qu'il fallait dans la foulée renvoyer l'ambassadeur du Mali en France, qui pourrait paraître anecdotique, le faux pas, puisqu'il n'y avait plus d'ambassadeur. Ce qui est intéressant, c'est depuis quand il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France ? Parce que ça ne date, c'est de 2020, mais ça ne date pas...
Ça fait deux ans, oui.
Oui, mais ça ne date pas du premier coup d'État. C'est antérieur au premier coup d'État, c'est-à-dire du temps de l'ancien président Keïta. C'est dire que la dégradation des relations entre la France et le Mali sont maintenant très anciennes. On est là dans une situation qui est à la fois très simple et très compliquée. Elle est très simple parce que la France est allée au Mali à l'appel des autorités maliennes dans le cadre d'une légalité à la fois africaine de l'OUA, internationale de l'ONU. Aujourd'hui, quoi qu'on pense des autorités maliennes, elles demandent à la France de partir, la France doit se retirer. Là où ça devient très compliqué, c'est ce que disait Natacha, c'est-à-dire à la fois le contexte, les autres pays qui sont là, et se retirer en bon ordre, c'est-à-dire ne pas se retirer, on ne peut pas se retirer immédiatement, il y a plusieurs milliers d'hommes qui sont là, tout ça s'organise, et c'est sans doute quitter le Mali sans quitter le Sahel, c'est ça qui doit être organisé. Après, je termine juste d'un mot, si on fait un petit zoom arrière...
Mais comment quitter le Mali sans quitter le Sahel ?
Non, c'est rester au Sahel en quittant le Mali.
Oui, mais c'est un pays gigantesque, le Mali, et qui occupe une bonne part, justement, de la zone sahélienne.
Oui, mais il y a d'autres pays avec lesquels nous discutons et dans lesquels il serait possible, sans doute, d'aller, je pense notamment au Niger. Dernier point, cette fois-ci, si on fait un petit zoom arrière, il y a cette question classique des opérations extérieures. On sait toujours comment on y va, on ne sait jamais comment on en repart. Et enfin, dernier mot, le bilan d'Emmanuel Macron. On voit qu'il s'est investi sur un certain nombre de sujets, qu'il a pris des initiatives, mais aussi bien en Algérie, aussi bien au Liban, aussi bien là au Mali, on voit qu'il y a eu des difficultés à ce que tout cela se concrétise. Le risque est que les présidents de la République, qui sont appelés par les Français à rester en France, se désinvestissent de l'international, qui est décidément bien compliqué.
À tout de suite, le débat dans le grand face-à-face avec le sociologue Camille Penny.